retrouve par téléphone notre envoyé très spécial à Cannes, Daphné. Daphné, salut.
Bonjour à tous, et oui, jour 9 pour moi. Je suis ravie de vous avoir en direct au téléphone pour vous faire un compte-rendu très bref de mes deux projections de ce matin. Autant vous dire que c'était deux très bons voyages, puisque j'ai commencé avec le Terry Gilliam qui est sélectionné en hors compétition pour The Imaginarium of Dr. Parnassus, l'Imaginarium du Dr. Parnassus, effectivement. Une superbe histoire, conte fantastique contemporain, où une troupe de théâtre ambulante propose d'entrer dans l'imaginaire des gens et de voyager. Mais seulement le docteur Parnassus a dealé des promesses au diable. On va avoir des péripéties, évidemment. Qu'a-t-il dealé au diable pour avoir la vie éternelle? Ça, on va le découvrir au fur et à mesure que le film avance. Et puis, on va entrer dans l'imaginaire des gens qui vont passer le miroir. Un film très beau, magnifique au niveau des décors et du délire. On est parfois dans le monde de Tim Burton. Et puis, on a surtout une interprétation au niveau des comédiens qui est fantastique. On y a Heath Ledger, dont à qui le film est d'ailleurs dédié, puisqu'il est mort, pas pendant le tournage, puisque c'est l'acteur, il me semble, du dernier film Batman. Et il avait joué quelques scènes dans The Imaginarium of Dr. Parnassus. Mais là, il faut que je me renseigne un peu plus sur la malédiction des tournages chez Terry Gilliam. Il y a également Christopher Plummer qui joue le Dr. Parnassus. Il y a Lily Cole qui joue sa fille Valentina. Et Tom Waits qui est Mr. Nick, qui est en fait le diable. Et puis Vern Troyer qui joue le rôle de Percy. Donc un très bon voyage pour démarrer la journée à 8h30. Et j'ai embrayé à midi avec le film qui est très attendu sur Cannes, puisqu'on connaît la proportion de Gaspard Noé à faire scandale quand il sort un film. Souvenez-vous de Irréversible en 2002 sur Cannes, l'effet de bombe que ça avait eu. Eh bien, je pense que Enter the Void, soudain le vide, va avoir le même effet, vu la réaction très silencieuse de la presse qui était présente à la projection de midi. Pas d'applaudissements, pas de huées. Donc je pense qu'on est tous un peu sous le choc. Moi, pour ma part, j'ai regretté de ne pas avoir d'écran 360 degrés pour complètement être dedans, parce que c'est un trip incroyable de tout, je pense, de tous les désirs de cinéaste et de toute personne qui désire savoir ce qui se passe à travers les murs. C'est un fantasme tout à fait réalisé par Gaspard Noé. Alors avec quels effets techniques, je n'en sais rien, c'est assez extraordinaire. Alors pour vous résumer, en fait, Oscar et sa sœur Linda habitent depuis peu à Tokyo. Oscar survit de petits deals de drogue, alors que Linda, elle, est stripteaseuse. Et un soir, lors d'une descente de police, Oscar est touché par une balle. Alors, tandis qu'il va agoniser, son esprit, fidèle à la promesse faite à sa sœur de ne jamais l'abandonner, puisqu'on va découvrir qu'ils sont orphelins, refuse de quitter le monde des vivants, et son esprit va errer dans la ville, et ses visions vont devenir de plus en plus chaotiques et cauchemardesques. Il va y avoir un mélange de passé, de présent, de futur. Et ça va être complètement hallucinatoire avec des images. Et ça, c'est dès le début, dès que le personnage prend son trip. Mais après, on ne quitte jamais le point de vue du personnage masculin, qui est celui de Oscar, qu'il soit vivant ou mort ou en transit. Donc c'est extraordinaire.
Et qu'est-ce qui est si scandaleux, alors, à ton avis, dans ce film ?
Bah parce qu'il montre tout. Je pense qu'il y a la scène de l'avortement qui n'a jamais été, enfin une scène d'avortement qui n'a jamais été montrée comme ça au cinéma. Enfin moi j'en ai jamais vu en tout cas. Je pense qu'effectivement ça va choquer plus d'un catholique ou pas d'ailleurs, parce que comment on montre l'avortement, c'est tout y est, les outils, la femme sur le la planche de travail, on va dire, et le bébé mort, quoi. Donc ça, je pense que c'est... Et en même temps, c'est très bien filmé. Bon, après, c'est très esthétique. On est attiré par des couleurs, des lumières, des chaleurs, des froideurs aussi. Enfin, c'est hallucinant. C'est un film hallucinant, tout simplement, quoi.
Alors, peut-être très vite, Daphné, un pronostic sur la Palme d'Or ou quelque chose ?
Ben moi, je dirais que pour...
En tout cas, ta Palme d'Or à toi.
Il faudrait que j'y réfléchisse encore, parce que là, je sors du Gaspard Noé. Et je trouve qu'il fait vraiment une proposition cinématographique intéressante, que j'attendais, moi, à Cannes. Donc, est-ce que ça vaut une Palme d'Or ? Je sais pas. Je sais pas. Après, il y a le Ken Loach, que j'aime beaucoup. Il y a le prophète, un prophète de... Jacques Audiard, hein, tout le monde, alors là, ça fait l'unanimité, hein, sur la côte, ça c'est, le Audiard fait l'unanimité. Après, les autres ne sont pas surprenants. Après, il y a le Heineke aussi, qui est très surprenant, qui fait très peur, enfin, c'est un peu le village des damnés à la façon Heineke, quoi. Et c'est une proposition aussi très intéressante. Donc, il y a des choses bien. Le Almodovar, non, je pense pas, ça reste de bonne tenue, mais c'est pas exceptionnel. Le prix d'interprétation masculine, je pense, pour le Tarantino. Maintenant, sa proposition, effectivement, de la guerre vue comme un western, je sais pas si elle mérite une Palme d'Or. Enfin, en tout cas, c'est pas le meilleur de Tarantino. Certains disent que c'est déjà le début de la fin, hein, pour les méchants qui sont là et qui savent tout avant tout le monde et qui ont décidé la vie ou de mort de tel ou tel cinéaste. Enfin, c'est des bruits de couloir, hein, tout ça. Mais c'est vrai que pour ma part, ce ne serait pas une Palme d'Or. Mais après le Gaspard Noé, je vous dis, je suis un peu sous le choc et en état hypnotique, je dirais.
Daphné, merci. Puis ben, on te retrouve soit ce week-end, soit la semaine prochaine de retour de Cannes avec des impressions, peut-être aussi des commentaires sur les résultats.
Ouais.
Salut.
Merci, au revoir.